qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention, vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Bonjour, bienvenue sur Radio Z. Aujourd'hui, nous sommes nombreux autour de la table. Nous sommes prêts. C'est la première émission qu'on enregistre de l'année. On est le 17 janvier, il est 14h12. Aujourd'hui, un nouveau déroulement d'émission. On va commencer par un petit point d'actualité, puis un débat organisé sur le sujet « Peut-on rire de tout ?» Puis deux chroniques dirigées par Guy et Véronique, avant de conclure. Je vais laisser la parole tout de suite à Brigitte.
Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc voilà, pour moi, je vais vous faire le point sur cette semaine. Quatre bonnes nouvelles. Alors la première nouvelle, c'est une initiative pour réduire les déchets et les carburants. À Montréal, Simon Gosselin a fondé en vrac sur roue une association dont le principe est de livrer des produits à vélo. Les produits sont livrés sans emballage afin d'éviter tout gaspillage. Vous êtes assuré de commencer des produits de qualité biologique et équitable sans produire de déchets, tout en favorisant les producteurs locaux.
Ça se passe où, ça? Partout en France?
Non, là, c'est... Il ne signale pas, là...
À Montréal.
À Montréal.
C'est monté à Montréal. La deuxième nouvelle, le progrès des bâtiments d'habitat pour l'humanité du Canada, prometteur l'implication des femmes dans la construction de logements habitat, en organisant des chantiers où la majeure partie de la planification est effectuée par des femmes bénévoles. Le but du programme, les bâtisseuses, n'est pas d'exclure les hommes, mais plutôt d'inclure les femmes. Habitants pour l'humanité canadienne et un organisateur sans but lucratif qui vise au monde où à chacun vit dans les lois adéquates. L'organisation canalise les efforts des bénévoles et des partenaires pour bâtir des maisons simples facilitant l'accès à la propriété aux familles à revenus limités. Troisième nouvelle, un champignon qui guérit. Les chercheurs de l'ISTE, de SNRS, ont découvert un champignon comestible qui permet de combattre certaines maladies génétiques. Il s'applique du clitocybe inversé et qui est notamment prometteur dans le traitement de la mucoviscidose. Cette découverte est porteuse d'espoir car un champignon, bien que non pour ses qualités gustatives et comestibles, il est de plus en plus rare, très courant. Pardon, excusez-moi. Et la quatrième, un sportif philanthrope, les sans-abri et les personnes en situation précaire pourront prochainement obtenir des repas sains et gratuits dans le nouveau restaurant du sportif serbe Novak Djokovic. Le joueur de tennis de renommée mondiale a décidé d'aller de l'avant avec des initiatives qui est d'abord et avant une manière de remercier son pays et ses habitants pour leur soutien fidèle. Il explique pourquoi de la nourriture gratuite, l'alimentation et la combustion auxquelles j'attire toute ma réussite. De toutes les choses que j'ai expérimentées dans ma vie, de sportif, une alimentation saine et ce qui est le plus changé. Malgré sa popularité et sa fortune, il reste humble et généreux et partage sa richesse avec le plus de démunis.
Alors, merci Brigitte pour ce point d'actualité plutôt social.
Excusez-moi,
On va passer tout de suite au débat du jour sur le thème « Peut-on rire de tout ?» Beaucoup disent oui, mais pas avec n'importe qui. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que non.
Vous pensez pas?
Non, on peut pas rire sur la mort, par exemple.
Sur la maladie aussi, c'est difficile.
On peut pas rire de n'importe quoi avec n'importe qui, en fait.
Steph, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Ouais.
Est-ce que tu peux développer ce que tu as dit quand tu as dit très spontanément non?
Non, j'ai dit
et
non.
Et tu as pensé tout de suite à un sujet compliqué?
Parce que des fois, il y a des comiques à la télé qui rient avec la mort. Et la mort, c'est jamais joyeux. On n'a pas le droit de... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas le droit de rire de quelqu'un qui est décédé d'une manière tragique ou d'une manière médicale. Quoi. On peut pas rire de la mort.
Toi, ils te font pas rire, ces comiques, quoi. Non, font des blagues là-dessus. Ouais.
Pas du tout, non. Au contraire, ils me font pleurer.
Et
moi, c'était sur la maladie. Une fois, j'ai entendu une blague sur un trisomique. Bon, c'était comique, mais quand on se met à sa place, et ben le pauvre, enfin quand on se met à la place de ces gens-là, et ben il y a rien de comique, quoi. C'est plutôt tragicomique.
Mais des fois, ça permet justement de les ouvrir un peu.
Moi, je crois que c'était un trisomique, c'est ça?
Oui, c'était une blague sur un trisomique.
Je crois que ils ne le prennent pas mal.
Je sais pas.
Non, mais c'est pour une
version d'esprit. J'ai connu une trisomique, elle était ouverte à tout.
Mm-hmm.
Est-ce que, par rapport aux questions qu'on s'est posées, est-ce que rire aussi, c'est forcément se moquer?
Non, pas forcément.
Non, pas forcément.
Donc, par exemple, là, dans...
Mais elle était censée déclencher le rire, la blague.
Ouais.
Et en fait, pour moi, elle m'est apparue comme une moquerie plus qu'autre chose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Est-ce que tu arriveras à retrouver l'exemple précis de...
Ah oui, la blague, c'était un trisomique qui rentrait dans une boulangerie et qui demandait de la tarte aux concombres. Et à la fin, ben, il répondait, oh ben, c'est pas bon. Hein. Elle lui dit, non, oui, j'en ai de la tarte aux concombres, tu en veux? Et lui, il lui répond, mais c'est pas bon, hein, avec son accent.
Ouais, je vois, je connais cette blague.
Oui, voilà. Il y a le bus qui vient avec aussi. Hein.
Et du coup, toi, t'as plus senti qu'il était en train de se moquer plutôt qu'en train de... Ouais, en tout cas,
moi,
ça en fait rire certains.
Je l'ai ressenti comme une moquerie pour eux, quoi.
Et du coup, ça t'a gêné, si t'as pas...
Ouais, ça m'a gêné.
La blague, c'est que le boulanger, il a fait des centaines après les tartes au concombre.
Oui.
Et il doit venir un bus. Le bus vient, il dit, c'est quoi les tartes au concombre? Il dit, oui. Ah, c'est pas bon les tartes au concombre, c'est pas autre chose. Et lui, il avait 40 tartes au concombre sur le ventre.
Vous avez rigolé un peu, Véronique, hein?
Oui, j'ai rigolé parce que, bon, ben, on peut pas pleurer, mais si on se met à la place du gamin qui... Je sais pas.
Et est-ce que si c'était ce gamin qui faisait la blague, est-ce que ça serait plus drôle pour vous?
Ouais, peut-être.
L'autodérision.
Il y a un comique qui a la maladie de verre. Et qui est tout démantibulé et qui se moque de son propre physique. Il dit, avant que vous vous moquiez de moi, que vous pleuriez sur mon sort,
ouais.
Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Et il se moque de lui. Tout ce qu'il dit fait rire tout le monde. Quoi.
C'est ça.
Du coup, est-ce que se moquer de quelque chose qui ne nous concerne pas, ça serait de la moquerie et du coup, ça serait pas de l'humour?
Moi, je crois que l'autodérision est le meilleur des esprits, des humours.
Du coup, on peut faire de l'humour que sur soi-même?
Non, j'ai dit que c'était le meilleur, j'ai pas dit que.
D'accord.
Mais c'est peut-être...
À savoir que l'autodérision, ça peut t'aider aussi à porter justement ton mal.
Mais moi, j'aurais peut-être un... Je sais pas si c'est un bon exemple, mais un petit contre-exemple par rapport au handicap, par exemple. Le film Intouchable, vous l'avez vu ou pas?
Oui, non. Il est magnifique.
Bon, il y a quand même pas mal de scènes où le Omar, la personne qui s'occupe du malade, il se fout de sa gueule, quoi. Et en fait, dans le film, un des messages un petit peu qui me semble hein, qu'il y a, hein, après c'est mon interprétation, mais c'est que finalement presque elle apprécie la personne, qu'il ne prenne pas des pincettes ouais. et qu'il ne soit pas tout le temps
malade. Malade, ouais.
Genre, mais je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais ça, c'est pour amener une autre idée. Tu vois.
Un contre-exemple.
Ouais. Le malade dans le film, il apprécie justement qu'il ne fasse pas attention à son handicap, qu'il réagisse comme avec une personne normale. Et il y a plusieurs remarques qu'il lui fait. Et...
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. Et, et plusieurs remarques qu'il fait que ça marche.
Et une fois, toujours en rapport avec ce film, j'avais vu une... Il faut que je sois plus près, pardon. J'avais vu une petite émission où il montrait des personnes en fauteuil qui étaient allées le voir au cinéma, ce film. Et ça avait l'air quand même de plutôt se marrer dans la salle. Donc, après, je pense peut-être que c'est quelque chose de très personnel, en fait.
Oui, je pense.
Que ça peut faire rire certains et pas trop...
Je pense,
ouais. Parce que là, par exemple, toi, Gilbert, tu as parlé d'un sujet en particulier. Mais peut-être qu'un autre... Est-ce qu'un autre sujet qui serait aussi grave, peut-être là, tu serais plus à même de rigoler.
À même de rigoler, sur des sujets tristes, c'est difficile. En étant objectif, hein. Quand on pense qu'une personne, par exemple, elle est dans un fauteuil roulant, se moquer d'elle, c'est pas ben ouais. Jojo, quoi.
Et est-ce que, du coup, tu penses qu'on arriverait mieux à rire avec des sujets positifs?
Oui.
Comment on peut faire marrer sur un sujet positif en même temps?
Oui, peut-être. Oui. Oui, c'est possible.
Pour moi, le rire, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de spontané.
Oui,
on n'a pas besoin de réfléchir sur le sujet pour se marrer, quoi.
Ça fait rire ou ça fait pas rire, ça vient tout seul, quoi.
C'est spontané, ou le rire est spontané. Ouais.
Sans gêne.
Nous, on a fait les mêmes choses.
Pas sans gêne, non. Comment dire?
Spontané, il n'y a pas de filtre, en soi. Non.
Il n'y a pas de quoi?
De filtre. Est-ce qu'on peut le... Moi, je le vois avec ce que disait Gilbert par rapport à une personne en fauteuil, par exemple. Je sais qu'avec certaines personnes, je peux me permettre de faire de l'humour sur le fauteuil et qu'elles vont le tolérer. Mais parce qu'on est passé outre le fauteuil. L'handicap est... Enfin, notre amitié, en tout cas, est au-dessus de cette pathologie. Mais avec d'autres personnes, je vais pas me le permettre. Mais peut-être parce que je les connais pas aussi. C'est en fonction d'une connaissance, d'une... J'ai mis un blanc.
Alors maintenant, c'est vrai qu'on peut croire que les médias se moquent beaucoup.
Elle est géniale pour les transitions.
Ils se permettent des rires. Et il y a certaines blagues qu'ils ne font pas. Comme, est-ce qu'ils se moquent du pape et de l'enfant? Non, par contre, ils se moquent de Mohamed et de...
Tu veux dire qu'ils choisissent des cibles qui sont un peu toujours les mêmes?
Ouais.
Et qu'à la longue, en fait, ça devient plus...
Non, ils se permettent des écarts qui sont pas valables, qui sont pleins de vices, on dirait, non?
Ouais, aussi.
Tu penses à
quoi?
À quoi en particulier?
Quand Jésus, il... Mohamed. Quand Jésus, Mohamed.
Sur la couverture de certains magazines...
Sur le canard enchaîné, moi je parle, voire même Charlie Hebdo aussi, ouais.
Bah ça, par exemple, vous en pensez quoi, les uns et les autres, de jusqu'où peut aller un journal ou quoi sur les caricatures, sur...
Ils ont le droit d'avoir le libre esprit de faire ce qu'ils veulent. Si on censure tout, c'est plus la peine d'avoir des droits de liberté.
Non, puis il y a le gouvernement qui censure. Il y a le gouvernement qui censure. S'ils vont trop loin, ils stoppent. Comme dans les guignols et tout, ça a chauffé. Hein.
Eux se gênent pas pour taper dessus les gens, pour les agresser ou pour autre chose. Et ils sont pas censurés. Quand ils taguent des endroits, quand ils saccagent des tombes, quand... ou autre chose, ça c'est pas censuré pour autant. Donc il faut... y a une juste milieu. Il y a autant d'un côté que de l'autre.
Après, c'est non. Des journaux qui sont justement là depuis des années et des années pour un petit peu aller vers enfin, la controverse. C'est après, on est libre ou pas de les acheter. Ou... Bon, forcément, on a tous en tête Charlie Hebdo, c'était la chose la plus dramatique. Et après, ils se sont demandé est-ce qu'ils continuent, est-ce qu'ils ne continuent pas. Finalement, s'ils ne continuaient pas, ben, on pourrait dire que les journalistes, les dessinateurs sont morts pour rien. Et de continuer malgré tout, c'est quand même leur rendre un hommage. Et puis, eux, ils ont la liberté d'expression, ils l'ont choisi. Ils ont choisi d'acheter ou pas le journal.
Oui, vous êtes pour la liberté à tous les étages. Quoi. Libre de s'exprimer et après libre d'acheter ou pas. Si ça nous plaît, et si ça ne nous plaît pas, on n'a qu'à pas l'acheter.
Quelquefois, justement, ils dénoncent des choses qu'on ne sait pas ou que les autres journaux sont censurés, justement.
Ouais. Disons qu'ils dénoncent des choses qui, en France, sont permis d'être dénoncées. Maintenant, à certaines réalités, jamais ils les évoquent. Est-ce qu'ils évoquent une réalité sur la psychiatrie, par exemple? Parce qu'il y a long à en dire sur la psychiatrie. Oui.
Après, c'est peut-être justement le truc le plus difficile, parce que c'est justement la psychiatrie, ça serait donc les malades, les patients, le public. Alors là, qu'est-ce qu'on dirait si d'un seul coup on voit qu'ils se moquent? Non, on s'élèverait contre ça. Et finalement, c'est parce que tu en parles, mais en réfléchissant, je vois.
Je dis pas se moquer, je dis vraiment dénoncer les choses en psychiatrie, dénoncer
alors,
par des blagues
pas dans ces
sur les docteurs et les
pas,
patients.
Pas dans ces journaux-là qu'il faudrait, enfin dans Charlie Hebdo, etc. Au Canard, encore que moi je sais, enfin j'ai lu, il y a aussi pas mal de livres qui sortent sur des psychiatres. Et on écrit sur eux pour les dénoncer, comme on a dénoncé Freud aussi, je crois.
Est-ce qu'on écrit ces livres que vous avez lus, est-ce que c'était teinté d'humour ou est-ce que c'était de la dénonciation juste
Bah, en fait, c'était ni l'un ni l'autre, c'était vraiment un constat de la psychiatrie, parce qu'on est, quand même en retard sur certains pays, il y a beaucoup de tabous encore, et... Moi, je sais que j'aime bien Boris Cyrulnik qui a fait des études de neurologie pour comprendre la psychiatrie et comprendre les malades. Et en fait, il disait qu'en 1960, il y avait encore des asiles de fous, comme ça, et on trépanait encore les gens. Ils étaient sur des paillasses, ils étaient laissés à l'abandon. Et c'est pas vieux, hein, c'est pas très vieux.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, il y a encore tout un travail à faire autour de ça.
Vous savez qu'un journaliste ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, j'ai une amie qui est journaliste et qui fait 90 minutes d'enquête. Chaque fois qu'elle fait un reportage, pour l'autorisation de l'assassin, au départ, ensuite, il contrôle le contenu de l'émission et suivant ce qu'elle raconte, c'est coupé.
On n'a pas le droit de tout dévoiler, voilà. C'est ça, dans un pays libre.
Mais est-ce que c'est pas plus par rapport à la ligne éditoriale, ça? Plus que par rapport à tel sujet, vous n'avez pas le droit de l'aborder?
Non, ils n'ont pas le droit de dévoiler certaines choses sur le système de la société française.
En France, quand on a quand même la liberté d'expression.
Non, peut-être plus en Amérique.
À quoi vous faites référence, Agnès?
Je fais référence, par exemple, à Patrick Poivre d'Arvor, à tous ces journalistes qui vendent du faux, qui vendent...
Oui, mais après, regarde, par exemple, tu parlais du Canard Enchaîné
Et qui ne révèle pas les réalités.
Oui, mais comme tout à l'heure, qui sont indépendantes, en France.
Comme tout à l'heure, on parlait de la psychiatrie, personne ne parle de la psychiatrie. Est-ce que tu as vu un reportage sur la psychiatrie?
Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais je n'aurais pas eu la même...
Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler, c'est tout.
Moi, j'ai vu un reportage sur la psychiatrie à la télévision il n'y a pas tellement longtemps. Et ils montraient comment vivaient les gens à l'intérieur, leurs occupations, les traitements, les soins, tout ça.
Par contre, il y a des points qu'il disait qui sont strictement faux. Quand on a vécu à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, il y a des choses qu'il disent qui ne sont pas réellement justes. Comme dire, tu fais un isolement pendant 2 jours ou 3 jours maximum. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un mois d'affilée, quoi. Donc,
ah, mais moi aussi. Mais
Il y a des autres choses qui ont sorti qui n'étaient pas forcément justes.
Vous trouvez pas un raccord avec la réalité que vous vivez, vous.
Voilà.
Alors moi, je suis témoin d'une femme de petite maladie qui était là pour dépression, qui voyait le médecin tous les jours. Même le médecin, il lui dit, bon, ben, on va prendre contact avec un autre médecin, un pasteur, et vous serez suivi par moi et mon collègue. Pourquoi la patiente, elle voit le médecin tous les jours?
Après, ça, c'est peut-être un peu difficile à évaluer. Parce que
qu'il le fasse avec tous les patients.
Ben, oui, mais c'est après, dans le domaine de la psychiatrie, justement, c'est tellement au cas par cas, il y a tellement de différences. Peut-être on ne peut pas généraliser aussi.
Moi, je crois que si on faisait pareil pour cette dame, si je voyais le médecin tous les jours, mais j'aurais progressé.
Et vous savez quoi, on va contacter les journaux et on va leur dire qu'il y a Radio Z qui fait des émissions qui parlent de psychiatrie avec des patients hospitalisés et peut-être qu'on aura du succès.
Bah, pourquoi pas.
Mais je pense qu'il faut qu'on en parle avec humour. Parce que je me dis que rire, est-ce que c'est pas un bon moyen de communiquer?
Ah, c'est le meilleur.
C'est l'autodérision, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut rire de tout, mais pas se moquer.
C'est une façon de positiver aussi.
D'avoir du recul sur chacun sur soi.
Ouais.
Moi, j'étais avec un collègue en salle, dans la salle d'anime de télé, et on faisait comme dans les mêmes pets chauds, vous savez, les deux papiers en hauteur. Et qui regardait tout ce qu'il y avait dans la salle. Et on faisait des commentaires, et on faisait les deux hyènes à côté qui rigolaient, qui tout ce qu'ils pouvaient. Et on disait, regarde, on est deux vieux de la même bête chaud, et regarde, là, il y a Peggy la cochonne, là, il y a ci, là, il y a là. Y a... Selon le caractère qu'on voyait, que la façon qu'ils réagissaient, tout ça. Donc... Mais c'était pas méchant, là. C'était pas méchamment.
C'était de l'autodérision.
Voilà.
Je pense que souvent, en psychiatrie, on rencontre des gens qui, j'allais dire, qui ont le sourire ou le rire facile parce qu'ils s'attachent aux vrais sentiments. Donc voilà, ça fait quand on arrive à les faire rire ou à rire ensemble, c'est comme si on était soigné. En fait, on se soigne aussi.
On se soigne par le rire.
Ouais.
Ouais, on me disait rire, je sais pas combien d'heures par jour.
Souvent, c'est sur des c'est petites choses banales.
C'est l'équivalent d'un steak.
Oui, j'ai entendu la même chose.
Oui. Durer 10 minutes par jour, c'est équivalent comme si tu avais mangé un steak de bœuf par jour.
Ah oui, ça fait sécréter des endorphines, des tas de trucs.
C'est équivalent. C'est équivalent.
Bon, du coup, le repas de ce soir, c'est rire.
On va manger un clown.
Et alors, puisqu'on on parlait de l'autodérision, qu'est-ce que vous pourriez dire pour rire de vous-même, là, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une anecdote à raconter?
Qu'on parle, mais que s'il faut, il n'y a personne qui nous écoute.
Ouais, ça, c'est l'autodérision de Radio Z, ça, c'est ça?
Ouais.
Bah, déjà, il y a 10 personnes qui t'écoutent.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est pas mal.
C'est vrai.
Ouais.
On a sur le site plus de 300 écoutes.
Ah ouais.
C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Mmh. Il y a des gens qui nous écoutent.
Quand même.
Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose sur ce thème du... Est-ce que finalement, on a répondu à la question, là, peut-on rire de tout?
Rire avec plaisir, rire avec tout faire.
Rire avec plaisir.
Rire
la première, ça va, la deuxième, je n'ai pas suivi.
C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est quelque chose dont on peut rire.
Donc on peut rire de tout.
Donc on peut rire de soi, oui.
En tout cas, il y a un truc qu'on a dit, c'est que c'est pas mal de partir de soi, parce qu'au moins, on n'avait pas le...
Ouais.
Il n'y avait pas le risque de dire je peux me moquer de l'autre, parce que je suis en train de parler de moi. Donc au pire, je me moque de moi, mais si c'est moi qui le fais...
De toute façon, quand on me regarde, je dis, je sais, je suis grosse,
je suis pas bien, j'ai peut-être qui vous plaît pas, comme ça, moi, on va régler le problème. Avant même qu'on me dise les critiques, je l'ai dit à l'avance, comme ça, moi, je suis tranquille.
Comme Eminem dans 8 Mile.
Une fois, j'étais bloqué au dos. Je demande déjà à Alice de venir. Il me dit, ah, c'est une grosse vache, comment voulez-vous que... Et bien, le dos, regardez comment elle est faite, comment elle est. Et ça m'a tellement choqué que j'ai plus mangé pendant 10 jours. Il est venu s'excuser. Ah, vous savez, même si on est ici, qu'on est malade, c'est pas en nous expliquant des trucs comme ça que ça va aller plus vite pour avancer, quoi.
Tout à fait.
Même si je savais que j'étais une grosse vache.
C'est une réflexion
bête et méchante. C'est pas un médecin qui doit dire ça à un patient.
C'est pas joli, joli. Hein.
Il s'est excusé par la suite.
On fait des bourdes même dans l'humour.
Ouais.
On va continuer avec Véronique qui va nous parler d'un groupe de musique. Un groupe de musique que vous connaissez qui s'appelle Ciao Ciao.
Alors, il y a Sylvie Botard qui est à l'accordéon diatonique. Jean-François Bosque qui est à la vielle à roue alto guitare. Étienne Bosque à la guitare basse et Pascal Odo à la batterie. Ciao Ciao propose un répertoire de balletti aux inspirations et aux tonalités variées, mêlant l'accordéon diatonique, la vielle à roue, les percussions et la basse, plus guitare. Tout ça pour créer des contrastes, surprendre, bousculer en douceur certaines règles établies. Ciao Ciao déroule son répertoire comme un voyage vers des destinations surprises. Ne pas s'y fier, Ciao Ciao vous fixe des repères, ce sera pour mieux vous en éloigner. Le contact, Association Tradition Nouvelle, Bosque Jean-François, un numéro de téléphone, 04 93 79 98 76. L'agenda, la Farandole, Festival International de Folklore de Nice au Théâtre de Verdure le 20 août 2017 à 20h. Le Balletti Sauvage, Place Garibaldi, le 2 novembre 2017 à 19h30. Le Balletti d'hiver à Roquebilière le 27 janvier 2018 à 20h.
C'est bientôt ça.
Oui.
Ouais.
Le bal Bosco Doc de 14h15 à 17h, stage avec Véronique Chauchon et apéritif dansant avec Ciao Ciao de 18 à 21h. Il y a aussi Ciao Ciao au Palais Sardes et Ciao Ciao à l'église du Vœu. Ça, c'est pour les manifestations. Personnellement, j'ai pu assister à un balletti organisé par le groupe il y a 2-3 ans à Peille, dans la salle des fêtes. C'est une musique traditionnelle avec des accents de modernité donnés par la guitare et la basse et la batterie. Traditionnelle par la présence de l'accordéon diatonique et de la vielle à roue. Tout se danse. Il y a différentes danses, la polka, la mazurka, la valse aussi. Avec des personnes qui connaissent le groupe ou des musiciens qui montrent les pas. Au départ, peu de monde sur la piste, puis les musiques sont tellement entraînantes que la salle se remplit, ça se danse à deux ou à plusieurs en cercle. Je suis arrivée avec un mal au genou, puis heureuse et émue par les musiques, j'ai dansé et pleuré de joie. Ce fut un merveilleux moment où chacun d'un univers différent, nous avons partagé le même amour de la musique et de la danse.
Merci Véronique.
Et ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a mal aux deux genoux.
À un genou.
Pour la présentation et le témoignage, je vous propose tout de suite de faire une petite pause. On pourrait écouter un extrait. c'était un extrait du groupe Ciao Ciao. Je laisse maintenant la parole à Guy, qui nous a fait le portrait d'un homme inconnu.
Oui, tout à fait. Moi, je voulais vous, pour la première émission de l'année 2018, vous faire une chronique sur une personne aussi peu connue qu'inspirante, un peu comme peut l'être Radio Z. Il s'agit d'un Américain qui s'appelle David Dutchman. C'est un ancien cadre dans le marketing international qui est maintenant retraité. Et depuis 12 ans, il fait des câlins bénévolement aux enfants prématurés pour leur apporter chaleur et réconfort. L'idée lui est venue lors d'une hospitalisation suite à une blessure à la jambe. Il décide de passer la porte du service pédiatrie afin de voir s'il n'y avait pas besoin de bénévoles. Et c'est le cas. David livre que jamais aucun travail ne lui a donné autant de satisfaction. Il trouve cela merveilleux parce qu'il fait quelque chose qui a du sens. Alors lorsque ses amis lui demandent ce qu'il vient faire ici, il leur répond qu'il porte des bébés, que parfois ils lui vomissent ou lui urinent dessus et qu'il trouve ça génial. Il lui demande souvent pourquoi il fait ça et il ne semble pas toujours saisir le genre de récompense qu'il peut en retirer. David prend le relais des parents lorsque ces derniers doivent s'absenter pour leur travail ou autre. Une mère témoigne et verbalise qu'elle est rassurée grâce à la présence de David. Tous les matins, elle essaye de venir le plus tôt possible, mais elle avait toujours peur que son enfant se sente seul et que sa mère lui manque. Et là, le savoir avec ce papy bienveillant, ça la réconforte. Il y a une infirmière qui témoigne aussi et qui témoigne de l'originalité de sa présence dans ce lieu et le fait que c'est vraiment une personne spéciale pour l'équipe. Et elle affirme que les bébés l'adorent. Moi, je voulais vous parler de cet homme-là parce que ça fait du bien de savoir qu'il y a dans ce monde des héros discrets et ordinaires qui n'ont pas forcément de gros muscles, qui ne font pas forcément de grands discours, qui ne portent pas de grandes capes ni de slips par-dessus leurs pantalons, mais qui, par une action simple et humaine, apportent de la chaleur à leur entourage et nous rappellent à quel point nous sommes interdépendants. Ce super papy, il a déjà inspiré bon nombre de personnes. Et c'est dans ce sens, notamment, que de plus en plus d'hôpitaux aux États-Unis font appel à des câlineurs bénévoles. Donc, alors David, si tu nous écoutes, si tu écoutes Radio Z, bah, viens faire un tour en France.
Merci, Guy. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir participé et à nos rares auditeurs de nous avoir suivis. Je vous dirai que Radio Z vous souhaite de grands projets pour cette nouvelle année. Une bonne santé, même si ça fait très cliché, et beaucoup d'amour, parce que c'est la base de la vie. Et sur ces derniers mots, on vous dit au revoir et à très vite sur
Radio Z.
C'était bon ?